This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de No SPF Podcast. Je suis très 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 contente de vous retrouver cette semaine. Déjà, je tiens à préciser que nous avons toujours pas d'intro. Je pense que vous avez remarqué. Ça fait littéralement 10 fois que je dis bonjour parce que je ne sais pas comment débuter ce podcast. Mais bref, on va y arriver, promis. Je tiens à commencer ce podcast en vous remerciant. Et oui, parce que nous sommes numéro 1 France des podcasts, que ce soit sur Apple Podcasts, sur Spotify. J'ai pas regardé, je vous avoue, sur Deezer ou sur les autres plateformes, mais en tout cas, c'est assez fou. À l'heure où je recorde ce podcast, nous sommes toujours numéro 1. Alors que ça fait une semaine que j'ai sorti mon podcast. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour votre soutien, pour tous les retours hyper positifs que j'ai eus. Je pensais vraiment pas que le premier épisode allait autant vous plaire, qu'il allait aider autant de personnes, parce que j'ai vraiment eu des retours super positifs, alors que je vous avoue, de base, c'était vraiment un podcast hyper naturel, genre moi qui raconte ma vie, et je m'attendais pas forcément à autant de retour positif, de bienveillance de votre part. Donc voilà, merci beaucoup, j'espère que ça va durer, évidemment. J'ai plein d'idées pour les prochains épisodes, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Bref, du coup, bienvenue dans ce deuxième épisode, et aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler business, entrepreneuriat, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. J'ai beaucoup de questions, que ce soit sur Insta, sur YouTube, tous les jours, franchement, sur la partie business. C'est pas forcément un sujet dont je... Enfin, si, en fait, j'en parle. En fait, si. J'avoue, j'en parle assez souvent, mais je dirais que c'est pas non plus le sujet principal de mon contenu, évidemment. Voilà, moi, vous savez, je parle beaucoup de fitness, de bien-être, de santé mentale, tout ce qui concerne le bien-être, hein. Mais c'est vrai que mon contenu, il est pas ciblé sur le business, mais j'en parle quand même pas mal parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, hein, de mon quotidien. Je pense que vous l'aurez deviné. Et du coup, vu que je vous partage ma vie, mes hauts, mes bas, c'est vrai que j'en parle pas mal. Et du coup, j'ai pas mal de questions. Je fais pas forcément du contenu ciblé business parce que c'est pas mon métier. Mais voilà, je trouvais ça intéressant du coup de faire un épisode dédié à ce sujet. Là, je vais vraiment vous parler de mes débuts, de comment est-ce que j'ai commencé et en quoi consiste en fait mon métier, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions et je pense que c'est pas forcément hyper clair quand on n'est pas dans le milieu ou quand on sait pas comment tout ça fonctionne. Donc voilà, je voulais vous parler de mon expérience, de comment est-ce que j'en suis arrivée là, un petit peu de mon expérience de vie, de mes voyages, parce que en fait tout se rejoint. Donc voilà, c'est parti, j'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas, avant de commencer, à aller suivre le Instagram de NoSPF Podcast, parce que je vais répondre à vos questions comme d'habitude en fin de podcast, et du coup je vous mets tout le temps les petites boîtes à questions sur le Insta du podcast. Et n'hésitez pas aussi à noter ce podcast. Vous savez, vous avez les petites étoiles sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, donc n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, ça me fait très plaisir, voilà, donc si vous le faites, merci beaucoup. Et c'est parti, commençons ce podcast. Donc je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu d'où je viens, entre guillemets, mes études, tout ça, parce que j'ai pas mal de trucs à dire, malgré que, vous l'aurez deviné, j'ai pas fait de très longues études. Mais voilà, je vais vous résumer mon parcours en tout cas. Donc déjà, commençons par le commencement. J'ai passé un bac ES, donc à l'époque c'était toujours ES, SL, là je crois que ça a changé, mais bref, j'ai eu mon bac ES, j'ai pas eu de mention, hein. J'ai eu mon bac avec 10.0 2, je pense. Voilà. Franchement, j'ai jamais été très bonne élève et j'ai jamais été mauvaise élève. J'ai toujours été dans la moyenne. Après, mes années lycée étaient un peu compliquées sur le plan personnel, ce qui fait que mes notes ne suivaient pas toujours. Et voilà, je m'arrangeais toujours pour avoir la moyenne pour passer. Mais c'est vrai que je faisais pas partie des meilleurs de la classe ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Je vous avoue que c'était une époque où j'étais vraiment perdue dans ma vie. Sur le plan perso, je pense que si vous avez écouté le dernier podcast, vous savez pourquoi. Je me cherchais beaucoup, je cherchais ce que je voulais faire. J'avais un environnement qui n'était pas forcément adapté à, comment dire, un équilibre de vie, on va dire. Donc j'ai décidé de partir en école de commerce après mon bac. Je vous avoue que c'était un petit peu une décision, pas par dépit, mais en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas si je voulais continuer mes études, je savais pas. En fait. Donc j'ai décidé d'aller en école de commerce parce que c'était pas la facilité, mais je trouvais que c'était la voie la plus sûre parce que pour moi c'était large. C'est vrai que le monde du marketing m'intéressait pas mal. Donc je me suis dit ça m'intéresse, on va voir, mais c'est vrai que j'avais pas d'idée concrète de ce que je voulais faire, comme d'ailleurs beaucoup de personnes à cet âge-là. Et si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal de pas savoir ce qu'on veut faire à 17-18 ans. Moi, je trouve ça un petit peu aberrant en fait qu'on doive choisir si tôt une voie professionnelle et être sûr, entre guillemets, même s'il y a toujours moyen de changer. Vous allez le voir hein, par la suite que c'est ce que j'ai fait, mais ouais, du coup, c'est vrai que comme beaucoup de gens, j'étais un petit peu perdue et je suis allée en école de commerce en me disant, bon, on verra, c'est un petit peu près là où je veux me diriger, mais je suis pas sûre. Donc voilà, j'ai été du coup à Kedge, si jamais vous connaissez, qui d'ailleurs est une école quand même assez chère, donc c'était pas forcément la meilleure des décisions, mais bref, j'ai tenu 3 mois. Pour vous la faire courte, déjà, je me suis rendu compte très vite que le scolaire c'était pas fait pour moi, c'est pas ce à quoi j'aspirais, et en plus j'étais dans un environnement qui me correspondait pas du tout. J'ai pas envie de dire que c'était à cause des personnes dans l'école ou quoi, mais c'est vrai que y avait une ambiance qui était un petit peu particulière qu'on retrouve souvent dans les écoles de commerce, je pense. Peut-être que c'est pas le cas de toutes les écoles de commerce, hein, je ne fais pas une généralité, mais en tout cas de mon expérience, c'était compliqué. Dans le sens où je me sentais pas du tout à ma place. C'était un petit peu pas basé sur le paraître, mais presque. J'avais du mal en fait à m'intégrer. Et surtout, à cette époque, j'étais pas du tout quelqu'un de sociable, en tout cas dès le premier abord. J'avais vraiment du mal en fait à aller vers les gens, etc. Je manquais beaucoup de confiance en moi, d'assurance, ce qui fait que je parlais pas hyper facilement aux gens. Et en fait, si tu parles pas aux gens, dans ce genre d'établissement, tu t'intègres pas en fait. Donc, j'avais une ou deux copines, attention, j'étais pas toute seule non plus. Je sentais pas que c'était ça en fait. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Ça a été pas forcément bien vu au début, ma famille, etc. Parce que, enfin, voilà, je venais à peine de commencer, je voulais déjà arrêter. Mon entourage le comprenait pas trop, ce que je comprends. Mais voilà, en fait, je me sentais pas à ma place et je me suis dit, pourquoi je vais me forcer à continuer quelque chose qui, je sais, en fait, ne me convient pas. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, à cette époque, donc j'étais avec un garçon et j'avais deux choix. Soit partir en Angleterre ou dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais, finir mon année en faisant quelque chose qui m'apporte, en fait, de l'expérience, des connaissances, mais que je puisse finir cette année avec une expérience de vie. Même si c'est pas des études ou un diplôme ou quoi. Et en fait, j'ai pas voulu. Là, vous allez me dire, mais pourquoi, t'es bizarre? C'est très simple. J'étais donc dans une relation compliquée, toxique, et j'ai décidé de rester en France et trouver des petits boulots. Tout ça pour rester avec mon copain, parce que pour lui, c'était impensable que je parte à l'étranger. Même si c'était pour 2, 3, 4 mois, pour lui c'était impensable. Il me disait concrètement que si je partais, c'était fini. Donc voilà dans la position dans quoi je me suis retrouvée. Après, c'était mon choix, hein. Attention, personne ne m'a forcée. Mais voilà, encore une fois, j'étais un petit peu quand même sous l'emprise de ce garçon, ce qui fait que je me suis empêchée beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux pas dire que je le regrette parce que du coup, j'ai fait d'autres choix qui m'ont beaucoup apporté et qui font que j'en suis là aujourd'hui. Donc je regrette pas, mais c'est vrai que si aujourd'hui, avec le recul que j'ai, on me proposait ça et que je me remets en fait dans la position dans laquelle j'étais à l'époque, c'est-à-dire que ça fait 10 ans, bref, c'est sûr que j'aurais fait les choses différemment. Du coup, j'ai décidé donc de rester en France. J'ai trouvé des petits boulots pour finir mon année parce que forcément, qui dit plus d'études dit bah mes parents ne m'aidaient plus, ce qui est totalement normal. Voilà, j'avais fait des choix et il fallait que j'assume. Donc, j'ai été trouver des petits boulots classiques. Hein, j'ai fait McDo. J'ai fait Picard, j'ai bossé en restauration un petit peu. J'étais nulle, mais quand je vous dis nulle, je pense que je ralentissais tout le restaurant. C'était très gênant. Bref, et après j'ai travaillé un petit peu dans la vente. Pareil, j'étais nulle. Voilà. Bref, donc j'ai pris vraiment tout ce que j'ai trouvé. J'ai fini mon année comme ça pour pouvoir payer mon loyer et assumer un petit peu mes choix. Et surtout pour attendre en fait, parce que j'avais quand même l'objectif de passer mon diplôme de coach sportive, parce qu'en fait je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit en fait qu'est-ce que j'aime? Bah j'aime le sport, j'aime aider les gens, j'aime transmettre mon savoir, ma passion. Et en fait bah à ce moment-là c'était un petit peu, enfin c'était pas le début mais j'avais peut-être 2 ans de fitness et c'est vraiment ce que j'aimais, c'est vraiment ce qui me faisait me sentir bien, me sentir vivante et c'était vraiment ma thérapie à l'époque, encore plus que ça l'est aujourd'hui. Donc voilà, j'ai décidé de suivre cette voie. Donc j'ai fini l'année avec des petits boulots et l'année suivante, j'ai passé donc mon diplôme de coach. Donc j'ai passé un BPJEPS, c'est le brevet d'État certifié coach. Je vais vous raconter quand même une petite anecdote sur ce diplôme. En fait, il faut savoir que mon diplôme de coach, je l'ai pas eu du premier coup. J'ai passé un an, j'avais 18 19 ans. J'étais l'une des plus jeunes hein, de ma classe parce qu'il y a beaucoup de reconversions pro, etc. Et en fait, il se trouve que j'étais pas forcément appréciée. C'est un peu triste, mais surtout en fait par les personnes qui géraient en fait cette organisation. Je sais pas comment dire, mais c'était une association, mais comme une école parce que c'était privé, donc c'était un diplôme assez cher. Et bah, c'est vrai que je me suis pas du tout sentie soutenue mentalement. Encore une fois, j'étais toujours avec ce garçon pendant cette année, ce qui fait que c'était encore plus compliqué. C'était la dernière année en fait de ma relation avec lui et c'est là où c'est vraiment parti en cacahuète, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, j'avais du mal à gérer tout ça, j'avais du mal à gérer le perso, les études, les cours, les révisions. Le niveau était quand même assez élevé par rapport à d'autres diplômes BPJEPS. Faut savoir que selon là où vous passez votre diplôme, c'est pas du tout le même niveau, c'est pas les mêmes cours forcément. Et en fait, je gérais très mal la situation, ce qui fait que j'étais pas forcément appréciée par que ce soit les profs ou quoi, parce que en fait personne ne me sentait investie, ce que je comprends totalement maintenant. Mais voilà, donc c'est vrai que j'avais du mal à trouver ma place, d'autant plus que on m'a un peu pas fait du chantage, mais si vous voulez, de base j'avais candidaté, je crois que ça se dit, pour ce diplôme seulement dans l'option musculation. Parce qu'en fait, c'est un diplôme, vous avez deux options. Vous avez l'option musculation et vous avez l'option cours collectif. Moi, les cours collectifs, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait, qui m'attirait. Mais en fait, on m'a dit à l'entrée, on m'a dit, écoute, nous, on t'accepte que si tu prends l'option cours co. Déjà, faut savoir un truc, c'est que forcément, si tu prends les deux options, ça coûte plus cher. Je vais pas forcément argumenter dessus, j'ai mon avis, mais voilà. On me disait que si je prenais pas l'option cours collectif, j'allais jamais trouver de travail, qu'avec l'option musculation, en plus j'étais une fille, donc bref, je vous passe les détails, mais voilà, on m'a un peu embobiné là-dedans, donc je me suis dit, de toute façon, j'ai pas trop de choix, j'ai vraiment envie de passer ce diplôme, donc je vais prendre l'option cours collectif. Autant vous dire que ça n'a pas duré longtemps, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi, même si je le savais dès le début. Et en fait, je leur ai dit que c'était pas possible, que je voulais arrêter quoi. Donc là, on m'a encore moins apprécié, je crois. Donc j'ai arrêté l'option cours collectif et je me suis concentrée sur la musculation. Bref, l'année passe, les épreuves arrivent. Et en fait, on m'observait, enfin on m'observait, on me surveillait sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que peu importe ce que je postais, ils étaient au courant. Et en fait, un jour, pendant une épreuve, j'ai posté une story. Je sais plus ce que j'ai dit, mais je pense que j'avais fait un commentaire qui, certes, était peut-être mal placé. Après, j'avais mentionné personne, mais bon, j'étais jeune. Enfin, même si je suis toujours jeune, j'avais pas forcément de recul sur les réseaux, les stories, machin, donc je mettais un peu tout et n'importe quoi en story. Donc j'avais dû dire que l'intervenant qui faisait passer les épreuves était pas cool. Je sais plus, franchement. Bref, faudrait que je la retrouve. Et en fait, je pense que peut-être une demi-heure après avoir posté la story, je reçois un appel de la formation et on me dit oui, on a vu ta story, rendez-vous demain dans mon bureau. Et en fait, je savais pas du tout que j'étais fliquée comme ça sur les réseaux. Et en fait, bah, bref, je suis allée du coup dans leur bureau le lendemain. Autant vous dire que ça a été ma fête. Je pense qu'on se permettait beaucoup de choses à mon égard parce que j'étais jeune. Parce que bah, j'avais pas forcément le répondant de quelqu'un de 40 ans qui aurait pu répondre et voilà. Parce qu'encore une fois, il y avait vraiment tous les âges dans la formation. Et du coup, on se permettait de me parler d'une manière, franchement, je vous jure que si vous auriez entendu la conversation, vous auriez été choqués. On a commencé à s'énerver sur moi, à me crier dessus et tout, enfin, un délire. Voilà, enfin, aujourd'hui, j'ai complètement oublié cette histoire, mais. Franchement, quand je m'en rappelle, ça me fait quand même rire parce qu'on m'a dit des trucs du genre avec tes 16 000 abonnés, de toute façon, tu feras rien, je sais pas quoi. Enfin, du coup, franchement, aujourd'hui, j'en rigole parce que c'est des personnes qui ne croyaient pas du tout en moi, qui me rabaissaient, qui me disaient que de toute façon, les réseaux, enfin, vous voyez un petit peu le discours, hein, superficiel, machin truc. Et puis, franchement, à l'époque, je croyais tout ce qu'on me disait, hein, donc ça me faisait pas plaisir. Je me rabaissais déjà beaucoup moi-même, donc le fait qu'on me rabaissait, bah, venant de l'extérieur, franchement, c'était encore pire pour moi. Donc voilà, et je suis ressortie de là en pleurs. Enfin, franchement, c'était un sketch. Tellement que, genre, mes parents ont dû appeler, alors que, enfin, mes parents, c'est pas du tout le genre à intervenir, enfin, surtout d'un point de vue, quand c'est une formation du pro et tout, c'est pas du tout le style. Mais bref, du coup, c'est parti un petit peu loin. Et j'ai dû finir mon année avec toute cette histoire, ce qui fait que je pense que j'ai pas du tout été. J'ai pas envie de dire que c'est de la faute de telle personne ou quoi, que j'ai pas eu mon diplôme, mais je pense que ça a été beaucoup influencé. Et je pense aussi que, qu'on se le dise, j'avais pas du tout assez travaillé pendant l'année, donc ça c'est un fait. Tout ça réuni fait que. Bref, j'ai raté les épreuves, voilà. Je suis rentrée à Saint-Barth, j'ai bossé pendant 2 mois pour me faire de l'argent. Je suis repartie en France, repassée les épreuves dans un autre organisme de formation que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de soutien, on m'a grave aidée et j'ai eu mon diplôme très facilement. Comme quoi l'environnement joue beaucoup, j'étais juste pas au bon endroit au bon moment en plus, je pense. Pour en revenir à tout ça, le fait qu'on me dise que de toute façon j'allais rien faire de ma vie, que mes 17 000 abonnés, ils servaient à rien, ou je sais plus combien j'avais à l'époque, je devais avoir ouais, 15, 16 000. Ils servaient à rien, que de toute façon, c'est pas ça qui fera que j'allais réussir dans ma vie. Bref, franchement, on m'a tout dit. Hein. On me rabaissait de ouf. Donc voilà, c'était plutôt sympa comme époque. Donc franchement, que ça vienne de mon copain à l'époque, des personnes de la formation dans laquelle j'étais, c'était vraiment pas une période de ma vie très positive et très cool pour moi en tout cas. Enfin bref, passons. Pour vous la faire courte, donc je suis rentrée en France, passé mon diplôme que j'ai eu. Et en fait, juste après, j'ai eu mon diplôme, j'ai pas réfléchi à deux fois, je suis partie en Australie. C'est quelque chose que je voulais faire depuis tellement longtemps et que je m'empêchais de faire, bah parce que voilà, j'étais amoureuse de quelqu'un et que ça c'était compliqué. Mais là, en fait, quand j'ai eu mon diplôme, que j'ai quitté cette personne, je me suis dit, maintenant il faut que tu vives pour toi, il faut que tu ailles faire ce que tu as envie de faire. Ça fait peur, l'inconnu ça fait peur, partir toute seule à l'autre bout du monde à 19 ans sans vraiment de bagages, sans savoir ce que j'allais faire. Parce que certes, j'avais du coup mon diplôme de coach, mais en fait en Australie, vous pouvez pas exercer le métier de coach avec un diplôme français comme ça. Enfin, il faut passer des équivalences, c'est un bordel. Je suis vraiment partie dans l'inconnu, mais je me suis dit en fait, si vraiment ça va pas, si ça fonctionne pas, je rentre. Et c'est ok. Je voulais essayer, je voulais de la nouveauté, je voulais changer d'environnement. Je voulais en fait un renouveau. Et j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là dans ma vie. Donc bref, je suis partie en Australie. Je suis restée en tout 6 mois environ en Australie. Je crois que je suis restée 5 mois à Sydney et j'ai fait 1 mois de road trip sur la côte est. Pendant que j'étais en Australie, j'ai pas travaillé sur place du tout. En fait, j'avais travaillé donc bah, plusieurs mois pour mettre de l'argent de côté et pour pouvoir faire ce voyage. De base, le plan, c'est que, enfin, je devais trouver en fait un travail en Australie. J'étais partie avec le visa Working Holiday, ce qui fait que bah, t'es censée quand même travailler. Et en fait, je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Je faisais déjà des coachings en ligne Mais c'était des coachings perso, je faisais du one-to-one. J'avais beaucoup de mal à en vivre, mais en fait, ça me rapportait assez pour que je puisse gérer ce que j'avais mis de côté et du coup, ce qui rentrait un petit peu tous les mois. C'était moins de 1000 euros. Mais voilà, en tout cas, ça me permettait de gérer ma vie en Australie, sachant que l'Australie, c'est très cher. Sydney, c'est très cher. Mais je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à gérer. Et en fait, juste après mon road trip, c'est à ce moment-là que je suis arrivée à Bali. Donc c'était en février 2020. De base, je suis arrivée ici parce que j'avais un pote qui était ici qui m'a dit « Ouais, viens, franchement, tu verras, mais c'est vraiment un endroit cool pour vivre. » Et en fait, à ce moment-là, j'avais un projet avec lui. Donc c'était aussi pour du pro et je me suis dit « Bah, nouvelle expérience, pourquoi pas ?» Et moi, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de venir à Bali, mais j'avais pas du tout comme... Enfin voilà, je m'étais pas du tout projetée en mode « Je vais m'installer à Bali, je vais monter mon business et tout. » Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Enfin, si j'avais une idée, parce que du coup, je savais que je voulais travailler dans le monde du fitness, du bien-être, etc. Mais j'avais pas assez confiance en moi pour me dire, je vais faire des programmes en ligne, je vais faire ça, je vais monter une chaîne YouTube, je vais... Enfin, tout ça, c'était encore très très loin. Hein. C'est-à-dire que à cette époque, certes, j'étais sur Instagram, mais tout ce que je faisais sur Instagram, c'était mettre des petites photos de mes voyages, des petites stories de mes séances par-ci par-là, c'est tout. Il n'y avait rien de très poussé, rien de profond, voilà. J'étais pas du tout en mode créatrice de contenu, organiser quoi que ce soit, c'était pas mon métier, donc ouais, c'était un peu flou encore. Et pour en revenir à l'Australie, en fait, je pense que inconsciemment, j'avais juste pas envie de trouver un travail dans lequel j'allais pas m'épanouir. Enfin, mes coachings me rapportaient certes pas énormément, mais assez en fait pour pouvoir vivre dans le moment présent et continuer à réfléchir, continuer à grandir aussi. Et c'est pour ça que je voulais pas aller travailler en restauration ou des choses dans lesquelles j'allais pas être épanouie. Je suis arrivée à Bali donc au début j'étais sur ce projet donc avec mon pote. Et ensuite Monsieur Covid est arrivé, hein, n'est-ce pas? Peut-être quelques semaines après. Et en fait mon pote est rentré en France et du coup ça a un peu mis notre projet en stand-by. D'ailleurs, on l'a jamais vraiment repris. C'est là que je me suis dit, bon, en fait, t'as deux choix. Soit tu rentres, tu continues à réfléchir ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, tu fais pourquoi pas du coaching en réel, quoi, genre pourquoi pas être personal trainer, enfin, c'est quelque chose au début qui me disait bien. Soit tu restes à Bali et tu fais quelque chose, genre tu montes un truc, tu te donnes les moyens de monter ton business, de prendre assez confiance en toi pour y aller et pour faire quelque chose qui va vraiment t'épanouir. Je pense que vous l'aurez deviné. J'ai décidé donc de rester à Bali. Franchement, j'ai hésité. Je vous jure que des fois, je me dis, l'univers est quand même bien fait parce que la vie ne tient qu'à une petite décision. Genre, ça peut changer toute votre vie. C'est un truc de fou. Franchement, je serais rentrée. Mais les gars, je sais pas ce que je ferais. Mais je pense pas ça. Donc voilà, j'ai décidé de rester. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé en conséquence pour créer mes premiers programmes sportifs. Je postais de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je commençais à faire des choses, des nouvelles choses. Et c'était aussi compliqué de m'afficher autant sur les réseaux parce que malgré que j'avais déjà un nombre d'abonnés, etc., j'étais pas du genre à mettre des stories, je sais pas, en parlant. Ou... Vous voyez, j'étais quand même assez timide et j'avais encore très peur du regard des autres, de ce qu'on allait penser de moi, du jugement. Ah ouais, elle est sur les réseaux, elle fait ça, elle montre ça. Enfin bref, vous voyez un petit peu, je pense, d'où je veux en venir. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a poussée à monter mon business en fait. Donc, faut savoir que déjà, j'avais pas de fonds. Franchement, j'avais, je pense, grand maximum 1000 euros. J'avais pas plus. Donc, c'est-à-dire dans toutes mes économies, mon compte, partout, j'avais 1000 euros. À Bali, c'est vrai que tu peux vivre pour pas cher du tout. Surtout là, on était en début de Covid, donc c'était assez spécial quand même. Bon là, les prix, je vous raconte pas comment ils ont augmenté, c'est un délire, mais bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est vrai que je pouvais me permettre de vivre pour pas grand-chose. Donc en fait, tout ce que je pouvais investir dans mon business, je l'investissais, bon, sachant que c'était pas grand-chose, parce que comme je vous disais, j'étais pas plein aux as, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment aidée dans mes choix et dans mon projet. Déjà, c'est l'environnement. Et en fait, cette vibe entrepreneur qui a, je pense, qui est quand même assez propre à Bali, ou en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout. En France, il n'y avait pas du tout ça, ou en tout cas, quand j'habitais en France, franchement, je savais même pas que ce que je fais aujourd'hui, c'était possible. Il y a tout, en fait, qui est regroupé pour cette vie. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que du coup, je me suis tout de suite sentie chez moi, et senti un peu pas en confiance, mais en tout cas ça m'a aidé à prendre confiance, parce que j'étais quand même pas mal entourée, ou en tout cas je me sentais pas seule, en fait. Et c'est vrai que là, du coup, ça m'a donné un petit coup de boost dont j'avais vraiment besoin. Comme je vous disais, je pars de très loin, hein, niveau confiance en moi, tout ça. Vous m'auriez dit il y a 2 ans en arrière que j'en serais là aujourd'hui, franchement, j'aurais rigolé, je pense. Je sais pas, mais j'aurais cru personne. J'ai commencé toute seule, parce que, comme je vous disais, j'avais pas les fonds pour déléguer des tâches, ou enfin m'entourer, etc. Alors oui, comme je vous disais, j'étais entourée de mes potes qui montaient leur business, donc je pense que j'étais surtout soutenue mentalement, en fait, donc ça c'était cool. Mais après, oui, j'avais pas les moyens de m'entourer de personnes. En tout cas, professionnellement parlant. Le premier programme donc que j'ai sorti, c'est le Bouti d'enfer à la maison, le tout premier. J'ai fait les vidéos toute seule, j'ai fait tout, en fait. Le contenu, bien sûr, le programme, la partie nutrition, la partie mindset. J'ai tourné les vidéos, j'ai fait le montage. La seule chose que j'ai déléguée, c'est les PDF. D'ailleurs, je travaille toujours avec la même personne, c'est assez ouf. Du coup, l'illustratrice qui s'occupe de mettre en page les PDF, et qui d'ailleurs fait un boulot de ouf. Je travaille avec elle depuis très longtemps. Donc voilà, je déléguais juste cette partie-là. Mais après, tout le reste, c'est moi qui faisais. Je faisais les pages de vente, alors que je n'avais aucune idée de comment on faisait une page de vente. Je faisais vraiment n'importe quoi au début, mais bon, on part tous de quelque part. Je faisais aussi les mails. Évidemment, je faisais tout mon contenu sur les réseaux. Je faisais les stories de vente. Pareil, j'étais pas du tout à l'aise à l'époque à parler de vente ou quoi en story. Je me sentais pas forcément. Enfin, je me sentais directement jugée. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à gérer ça. Franchement, si je vous ressors les stories. Donc voilà, j'ai commencé comme tout le monde, à petite échelle. Oui, j'avais déjà des abonnés sur Insta. J'avais, je crois, 17 000 à peu près. Mais c'était pas du tout des abonnés qualifiés, c'était pas du tout des abonnés nichés fitness. Franchement, ça fait un bout de temps que j'ai des abonnés sur Insta, parce que j'ai commencé Instagram très jeune, je devais avoir 14-15 ans. Mais à l'époque, je faisais, c'était saut 2014, je faisais du contenu mode, enfin voilà quoi, je m'amusais, mais c'était très, enfin futile entre guillemets, mais j'ai pas envie de dire ça, mais ça avait pas vraiment de fond, ou j'avais pas de message à faire passer, quoi que ce soit. Je postais mes petites photos et basta quoi. Mais bref, du coup j'avais pas du tout des abonnés qualifiés, c'était pas niché, sachant que oui, j'ai commencé Insta super jeune, mais j'ai arrêté Insta pendant 3-4 ans, le temps de ma relation, parce que mon copain ne m'autorisait pas, entre guillemets, ou en tout cas n'appréciait pas du tout ma présence sur les réseaux, ou que je m'affiche sur les réseaux. Bon, je le faisais un petit peu, mais j'avais bien arrêté pendant 2 ans. Et forcément, je ne vous apprends rien, mais en arrêtant de poster pendant 2 ans, tu perds tout le monde, en fait. Donc voilà, bref, j'avais certes 17 000 abonnés, mais je pense que j'en avais peut-être 1 000 d'actifs. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec mon Instagram, j'ai sorti mon premier programme, c'était vraiment du bricolage, mais 100% du bricolage made in moi, voilà. Mais écoutez, faut bien commencer quelque part, et franchement, ça m'a donné en tout cas ce point de départ, parce que il y a un moment, il faut y aller. Genre, oui, c'était pas parfait, c'était moi qui faisais quelque chose sans vraiment savoir ce que je faisais, mais en même temps, j'avais des connaissances, et en même temps, j'avais quand même des choses à dire, et je pense que c'est ça qui a fait que petit à petit ça a pris. Mais ouais, il y a un moment, faut y aller. Certes, c'était pas parfait, mais de toute façon, si vous attendez le moment parfait, ou le contenu parfait, ou la formation parfaite ou quoi, pour vous lancer, vous n'allez jamais vous lancer. Et du coup, je pense qu'il y a un moment, il faut oser. Et c'est ce que j'ai fait. Donc non, vous n'avez pas besoin d'abonner sur Instagram pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital, où il n'y a pas un minimum d'argent. Enfin, en fait, vous pouvez vraiment vous lancer en partant de pas grand-chose. Je vous assure, si vous avez la détermination, si vous avez l'envie, si vous avez la passion, si vous croyez un minimum en vous, alors oui, Au début, c'est dur. Je dis pas le contraire, hein. Comme je vous disais, moi, je croyais très peu en moi. Mais en tout cas, enfin, au fond de moi, en fait, je savais que c'était la bonne décision et je savais que à un moment donné, ça allait. Il y a quelque chose qui allait arriver. Je dis pas que je savais que ça allait fonctionner de fou et tout, parce que pas du tout, vraiment pas. Mais en tout cas, j'avais l'ambition, en fait, je pense. Et je pense que c'est ça qui a fait que bah, petit à petit, j'ai pas abandonné. Et avec des mois et des années de travail, bah, ça a payé, quoi. Et donc petit à petit, ça a commencé à prendre. Les gens ont commencé à apprécier, à suivre ce que je faisais. Bah, moi, de mon côté, j'ai été beaucoup plus régulière dans mon contenu. Je passais vraiment mes journées, mes nuits, je vous jure, je travaillais, mais comme une acharnée sur mes programmes, sur mon contenu, sur la qualité, essayer de faire de mon mieux. Franchement, si vous voyez aujourd'hui mon contenu d'il y a 2 ans, ça n'a encore une fois, je répète, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, je pense que bah, c'est normal, on part tous et toutes de quelque chose, on part tous, enfin, il y a forcément un point de départ et ça peut pas encore une fois être parfait dès le début. Quand ça a commencé à prendre, donc ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, déjà tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. Ça, c'est la base des bases. Quand vous commencez un business, faut pas vous attendre à directement vous faire des bénéfices de fou. Parce que moi, littéralement, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans mon business pour améliorer la qualité, pour m'entourer. Évidemment, je gardais de quoi vivre, hein. J'avais tellement ce truc au fond de moi qui me disait, mais tu peux le faire, genre, il y a un truc à faire, tu sais que t'en es capable. Et j'avais tellement envie d'aider, là en l'occurrence, les femmes qui sont passées par ce que moi, en fait, j'ai vécu aussi. J'ai un background qui est, entre guillemets, atypique et qui, malheureusement, arrive beaucoup trop souvent à beaucoup trop de personnes. Voilà, j'ai eu une relation très malsaine avec la nourriture, j'ai eu une relation très malsaine avec une personne aussi, voilà, je le répète, mais c'est aussi un petit peu bah, ce qui m'a forgée, et c'est aussi le pourquoi de bah, j'avais pas forcément confiance en moi, etc. Donc encore une fois, tout se relie, mais ouais, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma peau, j'avais peur de parler à des gens que je connaissais pas, parler en public c'était impossible pour moi. Oser faire les choses, c'était très compliqué. Enfin, franchement, il m'a fallu beaucoup de courage hein, pour lancer mon programme. Mais enfin, j'avais plus le choix. Genre, j'avais tellement travaillé et tellement fait. Enfin voilà, j'avais tellement donné qu'il y a un moment, faut y aller, encore une fois. Ouais, je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Je savais pas du tout si ça allait fonctionner. Je savais pas ce que les gens allaient dire et j'avais peur. Mais j'ai su trouver mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi bah, de développer mon business, de développer mes programmes, de développer mes réseaux? Et en fait, j'ai vraiment mis des mots sur tout ça et ça m'a guidée dans la suite, on va dire, dans mon business. Et je pense que c'est hyper important de savoir pourquoi est-ce que vous faites ça, parce que si vous faites les choses juste parce que bah, c'est sympa, c'est pas que ça sert à rien, mais il faut vraiment une raison profonde et je vous jure que ça change tout. En tout cas, moi, ça a tout changé pour moi quand j'ai su que. Bah voilà, je voulais faire ça parce que c'est un trop gros problème aujourd'hui encore, le peu d'estime de soi chez les femmes, les relations malsaines avec la nourriture, avec son corps, le manque de confiance en soi qu'on a toutes à un moment de notre vie, je pense, la peur de faire les choses. J'en parle souvent, mais pour moi, mes programmes, ça a jamais été avec un pur objectif physique parce que tout est lié, genre vous pouvez pas avoir un beau corps et vous sentir mal à l'intérieur. Vous pouvez pas vouloir perdre 10 kilos sans travailler sur vous, sans travailler sur votre bien-être. Enfin bref, et en fait, pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui manquait terriblement sur les réseaux, même dans la société, hein, si on part encore plus loin. C'était un gros problème, ça l'est toujours, mais. Je pense qu'on commence à en parler de plus en plus et c'est une bonne chose. Même sur les réseaux sociaux, il y avait tellement de fake en fait. Enfin, même moi, tu vois, genre, oui, je poste, je postais et je poste toujours voilà, des photos où je suis à mon avantage et tout. Mais en fait, pour moi, c'était tellement pas ce qui devait ressortir d'un compte ou ce sur quoi les gens devaient se baser parce que bah, c'est pas la réalité en fait. Et. Ouais, on poste une photo où on est à notre avantage, il n'y a aucun mal à ça, mais c'est important de des petites piqûres de rappel, ça fait du mal à personne. Et bref, pour moi en fait, je savais que je pouvais apporter quelque chose et je savais que mes programmes allaient aider des gens et je savais qu'il y avait ce besoin en fait. Donc bref, le pourquoi, c'était tellement pas un objectif personnel de base. J'avais vraiment ce besoin et cette envie de partager mon expérience, de partager la réalité. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que ça a fonctionné. Parce que bah moi, j'étais un petit peu loin de tous ces trucs, manger du poulet et du brocoli tous les jours. Et t'inquiète, t'auras ton corps pour l'été. Voilà, c'était pas du tout ma manière de voir les choses. Et ça l'est toujours pas d'ailleurs, et ça le sera jamais. Et au-delà de ça, j'avais tellement envie de prouver aux personnes qui ne croyaient pas en moi, qui n'ont jamais cru en moi, que bah, rien n'est impossible. Et que tout ce que toutes ces personnes m'ont toujours dit, bah en fait ça m'a forgé et ça m'a donné envie, ça m'a... Ah je sais pas comment dire, ça m'a tellement donné la niaque, enfin le... La niaque. Qui dit ça même? Bref, vous avez compris d'où je veux en venir. Donc de là j'ai commencé à m'entourer, j'ai commencé encore une fois bah, à investir mon argent comme je pouvais, à faire de mon mieux pour améliorer ce que je pouvais améliorer. Pour être honnête avec vous, je le fais toujours pas, hein, mais je ne comptais pas mes heures de travail. Genre je bossais nuit et jour s'il le fallait. Je me levais le matin, je travaillais, je me couchais le soir en travaillant. Alors certains vont dire oui mais c'est important d'avoir un équilibre et tout. Je suis 100% d'accord. Mais en fait, je vous jure, quand quelque chose vous porte autant que ça l'a fait pour moi, quand vous trouvez quelque chose qui résonne tellement en vous, je saurais pas expliquer ce sentiment, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais en fait, ne t'arrête pas, genre vas-y, et t'inquiète, un jour ça va payer. Donc bref, j'ai eu mes expériences, franchement j'ai eu beaucoup d'échecs, c'est normal, l'échec vous rend plus fort. C'est un petit peu cheesy ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc voilà, j'ai essayé. Des fois, je me suis plantée. Des fois, j'ai réussi. Des fois, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. J'ai pris d'autres directions. Mais ça fait partie du process. C'est normal. Et voilà, donc j'avais pas de limite. Et bah, y a un jour, ça a payé, quoi. Alors, je dis un jour, j'ai pas eu une date précise. Hein. Ça s'est fait petit à petit. J'ai pas eu un pic, un moment où... Ça a explosé. Je pense que c'est la régularité dans mon travail qui a fait qu'il y a un moment ça a payé. C'est le fait de m'entourer, de simplement m'entourer en fait. Faire tout toute seule, c'est impossible. Alors oui, ça fonctionne au début. De toute façon, quand vous n'avez pas le choix au début, forcément, vous allez commencer toute seule. Toute seule. Pardon, je parle au féminin, mais ça vaut pour les mecs aussi. Mais ouais, genre moi, je sais que dès que j'ai pu m'entourer, je me suis entourée. Et c'est tellement important parce que bah, les personnes en fait qui sont experts dans leur domaine feront ça beaucoup mieux que vous. Et c'est normal, vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas être bon partout. Maintenant, on va parler de en quoi consiste mon travail, concrètement. Parce que on me pose souvent la question, du coup, j'ai écrit des petites notes. Bon, je vais pas pouvoir rentrer de ouf dans les détails non plus parce que bah, ce podcast va être beaucoup trop long. Mais je vais un petit peu vous résumer en fait bah, ce que je fais. Concrètement. Peut-être je vous ferai un autre épisode sur mon organisation, comment j'organise mes journées, peut-être quelque chose de plus détaillé, mais je pense que si je mets tout dans cet épisode, ça va faire un peu long. Bref, donc il y a plusieurs parties, on va dire, de mon travail. Donc déjà, j'ai la partie influence, parce que bah, je suis sur les réseaux sociaux en plus de mes programmes, Instagram, YouTube, maintenant sur un podcast. mais surtout Instagram et YouTube, c'est mes deux réseaux sociaux majeurs, on va dire. Donc j'ai toute la création de contenu Instagram, ça inclut les shootings photos, les descriptions des posts, les retouches photos, l'organisation du feed, les stories tous les jours. On le dit pas beaucoup, je trouve, mais faire des stories tous les jours, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, et après, bah, y a tout le contenu sponso que je peux faire. J'en fais pas beaucoup, mais je suis surtout... en partenariat long terme avec Gymshark et Vivo Life, si vous n'êtes pas au courant. J'ai des dates où je dois faire du contenu pour ces deux marques-là. Mais sinon, je fais pas énormément de contenu sponsor, surtout sur mon Instagram, parce que bah, je préfère parler de mes programmes et laisser le reste un petit peu plus naturel et pas bombardé de trucs sponsor, acheter ça et tout, enfin bref. Je m'égare, mais vous avez compris. Et donc après, il y a toute la création de contenu YouTube cette fois, donc c'est-à-dire bah, filmer les vidéos. Voilà, merci Alaya. Le montage vidéo, ça c'est pas moi qui fais, je délègue tous mes montages YouTube. D'ailleurs, j'ai souvent la question. Donc voilà, vous avez votre réponse. Non, je ne monte pas mes vidéos YouTube, tout simplement parce que ce serait impossible, à moins d'avoir 60 heures dans une journée, mais c'est pas le cas. Donc voilà, déjà que je bosse énormément, si en plus je devais faire les montages de mes vidéos YouTube, autant vous dire que vous auriez, je pense, une vidéo tous les 2 mois. Bref. Donc voilà, et après, pareil, il y a le contenu sponsor YouTube. Et du coup, bah, qui dit contenu sponsor dit aussi gérer les mails avec les marques, signer les contrats. Et après, bah, il y a l'enregistrement de ce podcast. Je l'ai mis, voilà, je l'ai noté parce que maintenant, ça fait partie aussi de mon métier. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, toute la création de contenu Instagram et YouTube qui prend déjà énormément de temps. On dirait pas comme ça, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc après, ce qui fait partie de mon métier, on va dire principal, bah, c'est mes programmes. Donc, Boutique d'Enfer. Je pense que vous êtes au courant si vous me suivez. Donc déjà, ça inclut la création des programmes, simplement. Donc création du programme sportif, donc des séances, toute la partie écrite en amont. Donc que ce soit les séances, que ce soit aussi toute la partie mindset, bien-être. Enfin voilà, tous les chapitres en fait du programme, les explications. Mes programmes sont quand même très complets. Et du coup, ça inclut beaucoup de travail et beaucoup de création de contenu, beaucoup de rédaction. Ensuite, il y a la partie filming, c'est-à-dire le shooting vidéo de toutes les séances, parce que toutes les séances sont en vidéo, parce que pour moi, vendre des PDF, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. Bref, donc voilà, toute l'organisation en amont de gros tournages comme ça, je vous raconte pas, mais c'est énormément de travail. Savoir quand filmer, quoi filmer, avoir le matos, avoir l'endroit et évidemment j'ai quelqu'un qui me filme, évidemment je fais pas tout toute seule et en général j'ai une personne avec moi qui m'aide aussi parce que je vous jure que un petit cerveau dans ce genre de moment c'est compliqué parce qu'il faut rien oublier parce que tous les détails etc sachant que je suis quelqu'un de très très minutieuse et très méticuleuse qu'est-ce qu'on a d'autre? Exigeante enfin bref vous avez compris un petit peu la vibe je suis sûre que vous avez le mot. Mais moi je l'ai pas, donc bref. Du coup, ouais, il y a toute la créa, donc vidéo des programmes qui prennent beaucoup de temps. Ensuite, il y a évidemment les shootings photos, ça c'est plus pour les lancements, enfin pour le lancement en fait du programme en question. Parce que qui dit nouveau programme dit création de contenu bah, pour en faire la promotion, etc. Donc voilà, vidéo, photo, ça c'est tout ce qui est créa de contenu, on va dire. Ensuite, il y a la création bah, des PDF et des visuels, du logo s'il y a besoin, etc. Donc ça, je délègue. C'est pas moi qui fais bah, toute la partie illustration parce que c'est pas mon métier et que bah aujourd'hui j'ai les moyens de déléguer toutes ces choses-là. Ensuite, il y a la création des zones membres, enfin de la zone membre du programme. C'est un endroit où bah, vous avez tout le contenu du programme qui est regroupé sur une même page, etc. Et bien sûr, des pages de vente, donc bah, du site en fait, on va dire, du site internet. Faut savoir que là, je rentre pas dans les détails, mais c'est des choses qui prennent énormément de temps. On s'en rend pas compte comme ça parce que bah, c'est assez rapide à expliquer. Ensuite, il y a toute la partie mise à jour. Parce qu'il faut savoir que dès que je peux améliorer les programmes, je le fais. Quand je sens que bah, ça a besoin d'un petit renouveau, que ça manque de quelque chose, etc. Ça, pareil, ça inclut encore de la création de contenu, création de vidéos, création, rédaction. Aussi, il y a toute la gestion du groupe Facebook. Parce que faut savoir que quand vous achetez le programme, vous faites partie d'un groupe Facebook privé. Dès que je peux, je fais des petits posts Facebook, je réponds aux commentaires. Et enfin, je regarde un petit peu ce qui se dit sur le groupe. J'aime beaucoup, évidemment, pour suivre un petit peu bah, l'évolution des filles, etc. Faut savoir qu'on est une communauté de plus de 15 000 personnes, donc c'est assez ouf. Il y a toute la préparation, j'ai un petit peu oublié de préciser ça, mais la préparation en amont des lancements. Donc il y a toute la partie stratégique. Donc établir la stratégie du lancement, le message qu'on veut faire passer, sur quelle plateforme on va être présent, toute la création de contenu, donc c'est-à-dire qu'on prévoit à l'avance quel contenu sera posté, quelle date, si c'est plutôt des photos avec un texte, des vidéos, donc des reels sur Instagram, les vidéos YouTube, de quoi je vais parler, et ouais, toute la partie communication aussi. Sur mes réseaux surtout. Après, il y a la partie ads, donc pub payante, que je fais assez peu, que je fais quand même, mais déjà, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux, parce que c'est assez compliqué quand tu es niché dans le fitness. Faut savoir que tu te fais bloquer dès que on voit un bout de ventre ou quoi, donc bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je me concentre forcément. Ensuite, il y a toute la partie influence. Je sais pas si tout le monde est au courant ici, je pense pas, mais en gros, enfin, j'ai des influenceuses qui représentent le programme, donc des égéries plutôt, qui font du contenu pour le programme. Donc par exemple, s'il y a une promotion, bah, soit elles font une story, un post, enfin selon le contrat après, c'est différent selon les profils, etc. Mais voilà, en tout cas, il y a des influenceuses qui représentent les programmes Boutique d'Enfer. Puis moi après, bah, je dois valider le contenu avec Claire, donc la personne qui travaille avec moi, on établit la stratégie, qu'est-ce qui doit ressortir dans les stories, le message qu'on souhaite transmettre, enfin pour que l'influenceuse comprenne au mieux en fait notre point de vue et bah, en fait le message des programmes, etc. Parce que c'est hyper hyper important pour moi de transmettre le bon message. Enfin moi les stories de vente pure ça m'intéresse pas. Je suis vraiment là pour aider les gens et enfin, c'est ce qui doit ressortir selon moi et pas juste un contenu sponsor. Et puis après, il y a lors des promotions. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais pour les lancements quand c'est un nouveau programme. Donc c'est-à-dire que mes programmes sont à prix réduit. Donc pareil, mise en place de la stratégie, on fait un brainstorming sur le message qu'on veut faire passer, le prix de la promo, les contenus sur mes réseaux sociaux. On planifie tout, hein, donc il y a une date à chaque fois, on a un calendrier de tout le contenu. Pareil, je dois valider la légende. Si les posts incluent des illustrations, etc. Rédaction d'email, donc ça je délègue parce que évidemment je ne suis pas rédactrice d'email, mais bref. Et bah, après, pareil, il y a toute la création de contenu de mon côté, donc tournage des vidéos, shooting photo, tournage des stories aussi. Les faire à l'avance, c'est pas toujours le cas, mais j'essaye parce que ça prend énormément de temps de bien m'exprimer, mais en même temps que ça reste naturel, de partager toutes les infos, de rien oublier, etc. Et faut savoir que tout le contenu Insta, certes, c'est pour du coup mon compte principal, Allo Alaya, mais il y a toute la partie du compte des programmes, donc du compte Instagram Boutique d'Enfer. Pareil, on met en place le contenu qu'on va faire, les descriptions, les posts, les infographies, les stories. Et puis, bah c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, il y a toute la partie SAV, évidemment. Donc, c'est le dernier point concernant mes programmes. Donc, la gestion du groupe Facebook, la réponse ODM. Donc, ça rejoint influence et programme. Donc réponse ODM, ce qui nous prend beaucoup de temps parce qu'on en reçoit quand même pas mal. Et le SAV mail, bah, s'il y a des questions sur le programme, s'il y a des petits problèmes techniques ou quoi. Donc voilà, réponse aux commentaires sous mes posts Instagram, sous les posts de Boutique d'Enfer et sous mes vidéos YouTube. Bah voilà un petit peu, je crois que j'ai fait le tour. Évidemment, je ne fais pas tout ça toute seule, je suis entourée. Bon, je devais finir ce podcast en vous parlant de l'équilibre un petit peu travail, repos, vie sociale, etc. quand on a un business, parce que je pense que c'est un sujet assez intéressant et il y a pas mal de choses à dire. Mais ce podcast va être beaucoup trop long, encore une fois, je parle trop. Je vous ferai un épisode vraiment sur bah, toute la gestion en fait quand tu es dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, je laisse ça pour un autre épisode et je pense que je vais finir celui-ci par répondre à vos petites questions. On me demande qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Je pense honnêtement que ça a été de croire en moi, en fait, tout simplement. En tout cas, si tu parles de mes débuts, c'est vraiment oser et croire en mes capacités et avoir assez confiance pour me dire, bah, je peux le faire. Genre, c'est facile de regarder les autres et de se dire, moi, je pourrais jamais être à son niveau. Enfin, franchement, c'est ce que je me disais beaucoup. Je me rappelle, il y a genre 3 ans, j'étais quand même pas mal sur les réseaux et je suivais beaucoup bah, d'entrepreneuses, de filles ou même de mecs qui avaient leur business, qui avaient l'air de réussir, etc. Le nombre de fois où je me suis dit, mais de toute façon, ça m'arrivera jamais. Genre, c'est pas possible. Ça arrive aux autres, en fait. Et je vous jure que, heureusement, genre, Dieu merci, qu'à un moment donné, je me suis lancée. Parce qu'au pire, vous avez quoi à perdre? Rien. Genre, forcément, vous allez apprendre quelque chose. Les échecs, ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Forcément, vous allez avoir des échecs, et c'est normal. On en a tous, on en a tous eu, peu importe là où on en est aujourd'hui. Donc, faut vraiment ne pas avoir peur de l'échec parce que c'est ce qui vous forge, c'est ce qui vous fait grandir, c'est ce qui vous apprend tellement de choses.
Voilà, je pense que si je m'étais mis tous les freins que je pensais, parce que j'avais des croyances vraiment très limitantes, il y a de ça, ouais, 2 ans quand j'ai commencé, et en fait j'ai fait le choix de ne pas écouter cette petite voix dans ma tête qui me disait « Franchement, ça sert à rien, genre tu seras jamais au niveau de toutes ces meufs que tu suis sur les réseaux, c'est juste pas possible, etc. » Bref, j'avais cette voix dans ma tête constante. Croyez pas que je me suis lancée en étant trop confiante et tout, parce que pas du tout. Donc je pense que c'est quelque chose de pas forcément croire en son potentiel, en ses capacités. On part tous et toutes de quelque part, et quand tu te lances, c'est très rare que t'aies 100% confiance et que tu te dises « je sais que ça va marcher ». C'est très rare, ça existe, et franchement, tant mieux pour les personnes, vraiment. Mais voilà, c'est assez rare, mais faut pas laisser la petite voix dans votre tête vous limiter, parce que je vous assure que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, vous regarderez en arrière et vous vous direz « heureusement que je l'ai fait ». Et forcément, vous aurez appris quelque chose. Donc voilà, c'était mon petit conseil. On me demande aussi « est-ce que j'en ai parlé à mes proches avant de me lancer ?» Comment ont réagi mes proches, est-ce qu'ils me soutenaient, est-ce qu'ils me soutiennent aujourd'hui, etc. Alors, il faut savoir que quand je me suis lancée, j'étais à une période dans ma vie, enfin, j'étais un petit peu perdue, hein, je vous en ai déjà parlé. Certes, l'Australie m'avait quand même forgée et j'ai passé 6 mois incroyables et j'avais quand même grandi en 6 mois par rapport à quand j'étais en France. Mais j'étais quand même toujours un peu, je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie, quoi. Donc c'est vrai que mes proches ont eu un peu de mal au début. J'avais 19-20 ans et je voulais gagner ma vie sur les réseaux sociaux. Je voulais gagner ma vie en créant des programmes sportifs, en postant des photos. Enfin, c'était très flou encore dans la tête des gens, ce que je comprends, dans la tête de mes proches. Et c'est vrai que ça fait peur au début. Même mes parents, ils m'ont toujours soutenue. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre de ce côté-là et j'ai beaucoup de chance, je pense. Mais ils étaient quand même réticents au début, ce qui est normal, je pense, parce que c'est quand même un nouveau monde, entre guillemets. C'est une nouvelle façon de gagner sa vie et tout. Et je pense que c'est encore tellement nouveau que selon la génération, forcément, ça passe plus ou moins, quoi. Après, le reste de ma famille, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, au début, quand je gagnais à peine ma vie et que je galérais financièrement, on va pas se mentir, ils étaient pas trop rassurés. Franchement, ils auraient préféré que je trouve un travail classique, que j'ai un contrat CDI et que je sois en sécurité, pas à Bali en train d'essayer de monter un business, quoi. Voilà. Donc après ça, c'est un petit peu inévitable, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai pas du tout à me plaindre de ma famille, même si ça a été compliqué au début. Parce que voilà, moi j'ai des cousins qui ont fait des grandes études. J'ai pas forcément suivi un schéma classique et ça faisait peur. Mais voilà, après aujourd'hui, je pense que je peux dire que je réussis ma vie. Et j'en suis très fière. Et bien sûr que mes proches me soutiennent aujourd'hui. Donc voilà, après il y a toujours des gens, soit qui sont un peu jaloux, soit qui comprennent pas trop, soit qui ne veulent pas comprendre aussi. Et ça, c'est normal. Et de toute façon, franchement, j'ai envie de vous dire, vous le faites pour vous et pour personne d'autre. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas écouté justement toutes ces personnes qui croyaient pas en moi, parce que il y en avait beaucoup. Hein. Après, c'était des personnes plus ou moins proches, mais quand même, ça booste pas quand on te dit que de toute façon, t'iras nulle part et que tu perds ton temps. Mais faut pas abandonner, parce que ces gens-là, déjà ils sont personne pour prédire si vous allez réussir ou pas, ils en savent rien. Et les personnes qui jugent comme ça, ça en dit plus sur eux-mêmes que sur vous. Pour vous donner un exemple, moi on m'a dit mot pour mot, ton business c'est de la merde. Voilà, c'est... Je sais pas si la personne va écouter ce podcast ou pas, mais je vous passe un petit peu les détails. Mais on était pas en très bons termes suite à une histoire de business comme il y a souvent. Surtout quand tu travailles avec tes potes et ça a fini. Je sais pas si la personne le pensait réellement ou pas, mais c'était vraiment des mots qui blessent. Et c'est le genre de truc qui, je sais, peuvent bloquer des personnes en fait. Et c'est pour ça que je vous dis de pas écouter les gens. Écoutez-vous. C'est le plus important. On s'en fout complet de ce que pense Pierre-Paul Jacques. Ça vaut rien, en fait. Ça n'a aucune valeur. Et voilà, moi, on m'a dit ouais, que mon business était de la merde, que j'allais réussir à rien. Donc mon plus gros conseil de ce podcast, je dirais que c'est de suivre votre intuition, de croire en vous et de surtout pas écouter en fait les avis extérieurs, parce que si vous faites ça, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Vous leur prouverez de façon qu'ils avaient tort. Et franchement, c'est un long chemin, pas tranquille. ça peut pas être fluide et linéaire, pas du tout. Il y aura des moments de doute, des moments où vous allez vouloir abandonner. Et c'est normal, ça fait partie de, bah, du chemin, on va dire. On me demande comment as-tu fait pour choisir tes prestataires, collègues, sous-traitants, etc. Ça, franchement, moi, je pense qu'il n'y a pas de règles ou de lignes à suivre. Forcément, vous allez vous tromper. Je sais de quoi je parle. Voilà, c'est du vécu. Vous allez être déçu de certaines personnes. Enfin, ouais, moi, j'ai eu pas mal de déceptions et c'est normal. Et encore une fois, on apprend, on grandit. Voilà, mais croyez-moi, il y a des personnes qui sont incroyables. Et toutes les personnes qui vont vous décevoir, bah, ça va simplement amener les bonnes personnes par la suite. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis très très contente des personnes avec qui je travaille. On me demande comment démarrer quand on n'a pas du tout d'argent de côté. Si vous êtes étudiant, par exemple, si vous avez un petit boulot, etc., il y a forcément un moyen de mettre un petit peu d'argent de côté. Franchement, vous n'avez pas besoin de 10 000 euros pour commencer un business. Vous pouvez commencer petit et faire les choses petit à petit, c'est ce que moi j'ai fait. Il ne faut pas que vous mettiez des croyances limitantes en fait qui vont vous bloquer, et même si vous n'êtes pas sûr à 100% de vous, commencez déjà à faire un plan, à mettre vos idées sur un papier, à voir ce qui est possible de faire, ce qui est un petit peu moins possible pour le moment, mais qui sera sûrement dans quelques mois, pourquoi pas. Voilà, si vous travaillez, vous avez un CDI 35 heures par exemple, bloquez des heures dans votre semaine pour travailler sur vos projets et ne soyez pas dans l'urgence. On a le temps, ok. Il n'est jamais trop tard pour commencer à entreprendre, pour vivre de sa passion. Trouvez ce qui vous correspond, trouvez ce que vous voulez faire et commencez à mettre des petites actions en place petit à petit. Encore une fois, je pense que ça marche dans tous les domaines. J'en parle souvent dans le domaine du fitness, par exemple, que ça ne sert à rien de se fixer des objectifs de fou malade dès le début que vous n'allez pas tenir. Mais commencez à mettre des petites actions en place et vous allez voir que ça, plus ça, plus ça. Si vous avez la passion, si vous avez l'ambition de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, il n'y a rien qui va vous en empêcher. Bon, je pense que je vais finir ce podcast ici parce que il commence à être beaucoup trop long, encore une fois. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre 5 petites étoiles sur le podcast. Ça me fait toujours plaisir, à aller suivre le compte Instagram. Et puis voilà, que dire de plus, c'est tout. Je vous retrouve donc mardi prochain pour un nouvel épisode de No SPF Podcast. Et je vous fais des bisous, merci beaucoup pour votre soutien. Et voilà, à la semaine prochaine.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.